Comme a dit notre frère, ou en tout cas le directeur de notre frère, hein, ce n'est pas simplement à cause de la non-transhumance que Jésus n'est pas né un 24 décembre, hein, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, on retient de cet homme qu'il lit la Bible et plaise à Dieu que par la révélation de sa parole, eh bien, cet homme soit touché. On prie, entre guillemets, hein, pour nos dirigeants, pour nos patrons, pour, si vous êtes patron, pour nos employés, que le plus grand nombre dans nos entreprises connaît Jésus. Et on croit que cela aussi, eh bien, va influencer sur les objectifs de l'entreprise. Parce que vous savez tous que le but d'un chef d'entreprise, hein, avant le bien-être des ouvriers, avant, eh bien, c'est d'être rentable, c'est de faire du chiffre, etc. Alors, on peut pas se l'enlever non plus, hein, ceux qui ont des responsabilités, eh bien, là aussi, bien sûr, ont des obligations financières. On comprend bien. Hein, mais quand le patron est chrétien, quand les responsables sont chrétiens, je crois qu'il y a aussi des valeurs supplémentaires qui vont s'ajouter à cet objectif financier qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un trait. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres considérations. Et on prie pour nos patrons, on prie pour nos dirigeants, hein, notre président de la République, nos ministres, nos députés, nos sénateurs, qui ont besoin, bien sûr, là aussi d'être éclairés et par la grâce du Seigneur. Jésus, hein, demeure, comme notre frère l'a rappelé ce matin, il demeure la lumière de ce monde. La naissance de Jésus, elle est déjà entourée de cette lumière. Il y a quelques exemples. Je pense que chronologiquement, un des premiers effets de lumière, en tout cas de la gloire de Dieu, c'est quand l'ange Gabriel va se présenter à Marie. Vous vous souvenez? Hein, et cette apparition d'un ange doit être auréolée là aussi de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Marie constate, qu'elle vit, et ça nous parle déjà de cette lumière. Et puis peut-être qu'on pourrait passer directement, alors il y a Joseph bien sûr aussi, mais lui c'est en rêve, et puis on peut se transposer juste après peut-être du côté de l'Orient. Parce que dans cette période aussi, il faut plusieurs semaines pour traverser, aller de l'Orient, hein, jusqu'à cette fameuse demeure où Jésus est né. Les mages, certainement après, à voir après au niveau chronologique, eh bien vont voir là aussi une autre lumière. Hein, c'est sous la forme d'une étoile, un astre brillant, quelque chose qu'ils remarquent. Et là aussi, ça va les interpeller, à un tel point qu'ils vont se déplacer. Alors c'est pas l'affaire, hein, comme on l'a vu il y a 15 jours de quelques jours, il faut préparer ses bagages, la route est dangereuse, mais ils vont le faire, parce qu'une lumière aussi va apparaître. Et puis, Yves citait Siméon, hein, quel accueil, on l'a vu là aussi il y a 15 jours, là aussi, hein, Siméon, qui ce vénérable vieillard qui accueille Jésus dans ses bras, et puis qui aura cette parole extraordinaire, hein, « Seigneur, désormais, tu peux me laisser partir en paix, parce que j'ai vu ton salut, je l'ai là dans les bras. » On a une image extraordinaire quand même, hein. Un des rares hommes, et on va dire ça comme ça, ne vous choquez pas, qui ait pu tenir Dieu dans ses bras. Alors, vous n'allez pas faire dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais c'est une réalité. Et de cette bénédiction, il va dire désormais, lumière qui est venue pour éclairer la nation. Hein, les nations, extraordinaire, la lumière encore qui fait partie de la naissance de Jésus. Alors, ce matin, on va aller dans ce rappel, bien sûr, sur cette réalité de cette lumière, Jésus qui est la lumière. Alors, je proposerai trois textes ce matin. Le premier dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 12 à 16. Premier texte dans Matthieu, au chapitre 4, versets 12 à 16. C'est la reprise d'une prophétie, hein, d'Ésaïe au chapitre 8. Mais voilà ce qu'il est dit dans Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 16. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Alors, apparemment, comme ça, 2000 ans après, et puis avec un décalage de culture, bon, ce texte ne nous parle pas trop à part qu'il est question de la lumière, à part qu'il est question de Jésus qui est la lumière et puis qui éclaire des ténèbres. Mais si on fait quelques recherches, on s'aperçoit d'abord que ces tribus, Zabulon et Nephtali, font partie de ce qu'on appelle à l'époque la Basse Galilée, et se trouve le mont Tabor, Nazareth s'y trouve, Capernaum, toutes ces villes, eh bien, se trouvent dans cette région. Et au temps de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que on ne parle plus de ces deux tribus, de Zabulon et de Nephtali. C'est une région qui est considérée comme méprisée, qui est déconsidérée, qui est oubliée. D'ailleurs, il y a une expression à un moment donné dans l'Écriture, là aussi, si on ne connaît pas le contexte, qui passe comme cela. Lorsque un certain Philippe va annoncer à Nathanaël que le Sauveur est là, qu'il l'a vu, et Nathanaël va dire cette réflexion, mais, vas-y, je vois Anne-Marie qui cite, hein, voilà, Anne-Marie, de Nazareth, que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Ça voulait dire que peut-il sortir de bon de cette région de la Basse Galilée, de Nephtali, de Zabulon, de Nazareth, hein, parce que cette région était déconsidérée, elle était méprisée, elle était oubliée. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le moment de la conquête de Canaan, vous savez, toutes les tribus bien ont dû conquérir ensemble ou les unes avec les autres les territoires, eh bien celles de Zabulon et de Nephtali ont été entre guillemets plus faibles que les autres. Elles n'ont pas réussi à chasser tous les habitants, et puis au fil du temps, elles ont fait des alliances avec le peuple sur place. Et alors, c'est ce qu'on reproche ici, c'est ce qu'on dit, hein, finalement, c'est des tribus qui sont devenues bien comme étrangères. Il y a eu un mixte avec les populations, avec les païens, etc. Et puis, bien, ces tribus ont été méprisées par les autres, faibles, envahies par le paganisme, envahies par les faux dieux. Et au fil des siècles, jusqu'au temps de Jésus, eh bien, ces départements, j'allais dire, comme certains départements français, sont méprisés. Hein, on parle de certains départements comme des départements où il n'y a pas trop d'industrie, etc. Alors, ils sont comme méprisés, ils sont comme rejetés. Et ici, l'histoire de Zabulon et de Nephtali, eh bien, nous rappelle que ce matin, parfois, eh bien, nous aussi, nous pouvons être comme méprisés, rejetés, sans valeur ajoutée. On pourrait dire finalement, pourtant c'est de ce nulle part, eh bien, que la lumière va commencer à poindre. C'est sur ces gens déconsidérés, méprisés, humiliés par les autres tribus et puis par toute cette région à l'époque, eh bien que Jésus non seulement va retourner avec Joseph et Marie, bien sûr, mais va décider de rester et de commencer à exercer son métier de charpentier. Et puis, eh bien, cette grâce, cette lumière d'espérance pour des personnes déconsidérées, pour des personnes marginalisées, pour des personnes oubliées. Et c'est là que Jésus, dans Luc 4,16, dans cette synagogue de Nazareth, eh bien, va inaugurer son ministère public avec une parole extraordinaire qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors là encore, si on ne connaît pas trop le contexte de l'époque, bon, on se dit oui, c'est une parole dans une synagogue, et elle est pas mal. Sauf que, Nazareth à l'époque, c'est plus un lieu-dit qu'un village. Les archéologues nous disent qu'ils ont retrouvé à peine une quarantaine d'habitations, c'est tout. C'est un lieu-dit. Il y a pratiquement personne qui habite à Nazareth. Il y a quand même une synagogue, ce qui est extraordinaire, mais c'est un gros hameau. C'est un gros hameau qui est méprisé, qui est oublié, qui est en dehors, bien sûr, des routes commerciales, etc. Et qu'y a-t-il, qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth ? Et c'est là, dans cette synagogue de Nazareth, où il n'y a pratiquement personne. Imaginez, hein, une quarantaine d'habitations. Voilà, on vient à cette synagogue, une petite synagogue, mais c'est là que Jésus a choisi d'inaugurer son ministère et puis de rappeler à ses quelques habitants qui n'avait rien demandé à personne et qui n'attendait rien de personne des autres tribus, eh bien, Jésus, la lumière du monde, vient éclairer leur cœur et puis leur donner cette parole pour les encourager et publier une année de grâce. Aujourd'hui, la lumière de Jésus agit toujours de la même manière dans nos vies, dans nos cœurs, de la même façon. On connaît tous hein, les vertus bienfaisantes de la lumière. Il y a une technique qui s'appelle la luminothérapie. Voilà. Alors, à ce qui paraît, c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour la cicatrisation et c'est bon pour la relaxation. Voilà. Donc, vous savez qu'en ce moment, nos frères et sœurs qui habitent près du pôle Nord, là, ils sont en train de vivre la nuit polaire. Alors, pour les plus chanceux, ça commence vers le 7 décembre et puis ça termine vers début janvier. Mais certains vont vivre pendant plusieurs mois cette nuit polaire. Et les scientifiques vous le disent, c'est une réalité. Il y a beaucoup dans cette période de dépression, de mal-être. Les gens ne mangent plus ou mangent de trop parce que bien la lumière n'est plus là. Parce que la lumière n'est plus là. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous qui peut-être avons passé des moments où nos vies ont été comme méprisées, oubliées, rejetées. La lumière de Jésus bien se manifeste sur nos cœurs avec des rayons bienfaisants. Pour nous dire, eh bien, si tu es considéré comme cela de la part des autres, moi je suis là. Et c'est bien dans ta vie que je me lève. C'est bien de ta vie que je veux choisir pour que ta vie ne ressemble plus. Mais en tout cas, que tu saches, eh bien, que je t'aime et que de ta vie, eh bien, je peux faire quelque chose de glorieux. La lumière de Jésus à Nazareth, un village paumé, oublié de tous, eh bien, c'est là que Jésus a choisi d'annoncer dans une petite synagogue. Eh bien, cette parole extraordinaire pour nous qui résonne encore aujourd'hui. Un autre texte, vous le connaissez, c'est dans Jean 1 qui nous parle encore de lumière. C'est le chapitre 1er. Et puis, on va lire quelques versets. Et là, il est question de parole et de lumière. Alors, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont non nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Parole et lumière, il y a une même racine divine qui se retrouve en Jésus. Vous qui avez fait un peu de physique, hein, si vous avez des souvenirs, vous savez qu'il y a un point commun entre la lumière et puis donc la parole, ce sont des ondes, voilà, ce sont des fréquences. Et finalement, il y a un point commun. Eh bien, dans le divin, dans le spirituel, c'est la même chose. Jésus est la parole, Jésus est la lumière. Et spirituellement, bien, en Jésus, il y a cette réalité ce matin. Cette lumière, elle est créatrice. Et non seulement Jésus crée et peut créer à partir de rien, mais il est aussi celui qui va soutenir sa création. Et ce matin, bien, il soutient sa création, on va dire, naturelle, mais il soutient surtout chacun d'entre nous. Vous rappelez la première parole rapportée dans l'Écriture hein, que Dieu dit dans la Genèse ? Vous vous rappelez cette parole, elle est même passée dans la postérité, hein, c'est que la lumière soit. Et là encore, quand il est dit que la lumière soit, ça ne veut pas dire que la lumière se crée, mais que la lumière se révèle, que la lumière maintenant éclaire, que la lumière se manifeste, parce que Jésus est depuis toute éternité. Il est lumière avant cette parole, il est lumière avant le monde. Et là, il y a quand même une description intéressante, en tout cas, vous rappelez, de quelle manière était la terre, ou en tout cas ce qui ressemblait un petit peu à notre terre, avant que la lumière soit. Il y a des mots qui sont forts quand même dans l'Écriture. Hein. Informe, vide, on parle de chaos, ténèbres, on parle d'abîme également. D'abîme, voilà, tous ces termes pour un petit peu. Et à partir de la lumière, Hein, il est dit que, eh bien, le monde va se mettre en place. Dieu va envoyer sa parole, sa lumière. Et on peut reconnaître ce matin que parfois nos vies aussi, on peut vivre des moments de chaos. Une vie chaotique, hein, on connaît l'expression. Et puis, on peut vivre aussi parfois des moments de vide intérieur. Même en tant que croyant, même en tant que chrétien, ne nous leurrons pas, ne croyons pas qu'on est toujours au taquet, qu'on est toujours en pleine forme. Il y a des moments dans nos vies où nos vies sont chaotiques. C'est-à-dire qu'on accumule, et on ne sait pas pourquoi, eh bien les épreuves, les souffrances, les déceptions, les échecs, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et il y a des moments dans nos vies, il faut reconnaître, eh bien notre vie, elle est chaotique. Et on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a des moments aussi dans nos vies, devant certaines circonstances, on se dit, mais finalement, à quoi je sers? C'est quoi le sens de ma vie? Face à certaines réactions, face à certains événements, qui suis-je réellement? Est-ce que j'ai fait des bons choix? Y a-t-il un sens à ce que je fais? Y a-t-il un sens à mon travail? Y a-t-il un sens à ma vie, à mon environnement? Toutes ces questions, on se les pose. Et il faut reconnaître que parfois, bien, notre vie est vide aussi dans ces moments où on se pose certaines questions. Une vie chaotique, une vie vide de sens. Et puis, on parlait d'abîme. On reconnaît ce matin aussi que parfois nos vies sont abîmées. Elles sont abîmées. Il y a comme des gouffres, il y a comme des pans entiers de notre vie qu'on ne maîtrise pas. On a parfois l'impression que devant certaines paroles, eh bien, il y a un pan de notre vie qui s'effondre. Peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment. Eh bien, ce matin, la lumière de Jésus, que la lumière soit. Que la présence de Jésus puisse nous réconforter. Que d'une vie chaotique, vide de sens, abîmée, eh bien, il y commence une restauration, une guérison. La lumière de Jésus, la présence de Jésus, eh bien, a cet effet dans nos vies. Les scientifiques s'accordent à reconnaître qu'il y a au moins 5 éléments indispensables à la vie sur Terre. Est-ce que vous avez une idée de quoi on a besoin? Alors, j'ai posé la question hier à Souls et j'ai une adote qui était avec nous. Vous savez ce qu'elle a répondu, cette adote? Le portable! Le portable! C'est extraordinaire quand même. Alors, je me suis trompé dans la formulation de ma question. Hein. Voilà. C'est pas en cas de survie ou en cas de terre inconnue. Non, non, non. C'est vraiment les éléments de la vie. Le portable! Bien, voilà. Alors, on a la lumière. On a la lumière. Mais il y en a encore 4 autres. Oui, alors l'air, ok. Après, l'eau. Ça en fait 3. C'est pas mal. Encore 2. Alors, l'alimentation, mais elle vient de quoi? Elle vient d'où? Non, de la nature, la terre. On a besoin de terre. Et puis, il y a un dernier élément. Et ce dernier élément nous fait apprécier ce culte de manière bien agréable quand même ce matin. Hein. Là? Non, pas l'amour. C'est un élément physique, là. Je parle d'élément physique. Le? Non. Si je vous coupe le chauffage, voilà, la température, tout à fait. Eh oui, la température, voilà. Vivre à moins 50, à mon avis, on va pas vivre longtemps, etc. Et dans ces 5 éléments qu'on vient, à part le portable, voilà, qui est vous savez qu'on a maintenant une journée mondiale sans portable. Hein, bon, voilà, c'est juste la parenthèse. Eh bien, la lumière en fait partie. Imaginez, on coupe la lumière, etc. Eh bien, on va avoir des problèmes, bien sûr, pour vivre, pour exister. Hein, hein? Oui, mais alors ça, on l'a cité. Un jour, on a fait une réunion de jeunes et puis on a demandé s'il fallait qu'on soit dans une opération survie, une terre inconnue, 3 éléments. Qu'est-ce que vous prendriez? Alors, on a droit au portable, bien sûr. Hein. Comment? Une île déserte. On a eu droit aussi à une Ferrari. Il y en a qui partent avec une Ferrari. Rigolez pas, une Ferrari, même sans essence, ça peut devenir un abri. Non, mais vous riez, vous. Hein, je préfère prendre mon petit déjeuner dans une Ferrari en plein désert que dans une 2 chevaux. Bon, voilà. Hein? Mais bien sûr, on avait la Bible, on avait les couteaux, on avait le feu. Il y en a une, il me semble, qui était partie avec des liasses de billets. Non, il n'y avait pas personne. Une valise de billets. Bon, ça peut être utile pour allumer du feu ou faire un feu. Hein? L'ordinateur, bien sûr, hein? Et le portable. Bon, allez, on referme la parenthèse. Hein? En tout cas, ce matin, si nos vies, parfois, peuvent être chaotiques, abîmées, vides de sens, Jésus, la lumière, éclaire, restaure, bénit. Amen. Et ça, c'est une belle réalité. Et puis, on termine par un dernier texte. Vous le connaissez également. Toujours, cette belle déclaration de Jésus C'est dans Jean 8, 12. Jean 8, 12, vous la connaissez cette déclaration. Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Alors cette déclaration, pour bien la saisir, il faut la remettre dans son contexte. Juste avant cette déclaration, il y a une rencontre, j'allais dire déterminante, en tout cas pour la personne rencontrée, mais aussi pour Jésus qui va s'appuyer sur cette rencontre pour faire cette déclaration « Je suis la lumière du monde ». C'est cette femme qu'on va traîner donc dans la présence de Jésus. On est dans le temple, on est certainement dans le parvis des païens, parce que si on avait été un peu plus loin, jamais on aurait traîné une femme dans ce parvis des hommes. Je pense qu'on est là, en tout cas dans le parvis le plus accessible, et c'est là où Jésus enseigne. C'est là où, dans ce temple, Jésus se rend accessible à tous. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va venir traîner une femme surprise en flagrant délit d'adultère au pied de Jésus. Et finalement, le but de cette manœuvre, excusez-moi d'appeler ça comme ça parce que c'en est une, ce n'est pas tellement de voir cette femme condamnée à être lapidée ou pas. Non, les Juifs veulent piéger Jésus. Ils lui tendent un piège. Et en fonction de sa réponse, eh bien, on va décider après du sort de Jésus et Jésus le sait. Alors, bien sûr, ces Juifs viennent devant Jésus, ils la traînent, et puis que dit la loi pour cette femme? Et vous vous rappelez d'abord la première réaction de Jésus? Que fait Jésus, d'abord? Tout à fait. Alors, c'est mystérieux, hein. La Bible nous dit qu'il s'abaisse, là, et puis avec le doigt, il écrit, il dessine, on ne sait pas. J'ai deux commentaires intéressants. Il y en a un qui dit, à partir d'une parole de Jérémie, je vous la lis, Jérémie 17, 13, c'est intéressant, il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit ceci, « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qui est l'Éternel. » Certains s'appuient sur cette déclaration de Jérémie parce que Jésus dans le temple, c'est la fête des tabernacles. Et juste avant, Jésus a dit, bien, je suis la source d'eau vive, hein, celui qui a soif qu'il vienne à moi. Et dans ce contexte, dans ce cadre-là, il y a ensuite l'épisode de la femme adultère, et dans ce contexte-là, eh bien, pour ces commentateurs, Jésus serait en train d'écrire le nom des accusateurs de cette femme, parce qu'eux n'ont pas accepté Christ comme source d'eau vive. Et c'est ce que déclare Jérémie. Il dit ici, bien que, oui, le nom des accusateurs de ceux qui m'ont renié, de ceux qui ne m'ont pas accepté comme source d'eau vive, eh bien, leurs noms seront inscrits sur la terre. Ça peut être c'est intéressant pour moi, en tout cas, ça peut être cohérent. Une autre interprétation est celle-ci. Vous savez que les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu, notamment le 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Le doigt de Dieu qui a écrit... Et ici, bien, on est dans le temple, on est sur les marches du temple, et ici, bien, Jésus viendrait apporter un complément, apporter cette réalité de la Torah, où lui va accorder la grâce, accorder le pardon. Oui, il était écrit dans la loi que cette femme devait être lapidée, mais Jésus ne va pas contredire, au contraire, il va apporter une touche supplémentaire, celle du pardon, celle de la miséricorde. Et en écrivant ainsi, peut-être pardon, peut-être miséricorde, peut-être, je ne sais pas quel autre mot en hébreu, eh bien, Jésus viendrait parfaire cette loi que Dieu avait écrite de son doigt, donc, lorsqu'il donnera les tablettes à Moïse. C'est une autre interprétation qui me semble aussi cohérente. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, Jésus, lorsqu'il va se relever de ce moment, il partagera cette parole qui, là aussi, est passée dans la postérité, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et la Bible nous dit que tous, accusés par leur conscience, des plus anciens aux plus jeunes, eh bien, vont se retirer. Et Jésus, bien, est là avec cette femme. Alors, cette femme qui est aux genoux de Jésus a certainement vu aussi ce que Jésus a écrit. Je pense. Et son cœur est travaillé, son cœur est... On peut comprendre, là aussi, bien, ce qu'elle vit en ce moment-là. Et Jésus, par son pardon, par sa grâce, par sa miséricorde, va lui donner l'autorité, le pouvoir de repartir d'une autre manière et de changer de vie, de changer de vie. Ça, c'est pour nous également ce matin, eh bien, cette lumière de Jésus qui nous dit « Je ne te condamne plus, va, ne pêche plus. » Jésus qui pardonne mon péché. Si on fait un petit flashback sur cette année, le rétroviseur de l'année, je pense qu'il y a des situations où on n'est pas très fier de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas dit, de ce qu'on n'a pas fait, etc., vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Et on peut être mal à l'aise. Eh bien, ce matin, Jésus me dit, je suis la lumière du monde pour toi, pour ta vie. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. La lumière de Jésus qui, ce matin, nous pardonne, nous affranchit, nous libère. Lumière de miséricorde, lumière de grâce, lumière de pardon, lumière de sainteté, lumière d'amour. Tout cela, eh bien, ce matin, Jésus nous en inonde, comme il va le faire, bien sûr, pour cette femme. Et à cette occasion, il dira, je suis la lumière du monde. Imaginons ce matin qu'on soit dans une pièce luxueuse. Alors, je ne sais pas, pour vous, qu'est-ce qu'une pièce luxueuse? Dites-moi voir. Moi, je vois des belles boiseries, là, sur le côté, un plafond orné avec des peintures. Qu'est-ce que vous ajouteriez à cette belle pièce luxueuse? Allons-y, c'est gratuit ce matin. Donc, on ne paye pas. Qu'est-ce que vous mettez dedans, dans cette pièce bien luxueuse? Dites-moi voir. Vous mettez quoi? Oui, des meubles. Ah, mais quel type de meubles? Hein? Des beaux meubles, quand même. Enfin, je ne sais pas, Louis XIV, si c'est... Ah, bon, voilà, du beau meuble. OK, on ajoute quoi? Alors, je me suis fait... hier, reprendre, parce que moi, je voyais un beau lustre en cristal de baccarat. Et j'ai osé dire, bah, de toute façon, il n'y a pas de cristal en Alsace, il n'y a pas de cristallerie. Et on m'a dit, mais il y en a une à Saint-Louis. Mais oui, non, vous voyez, mais à coup de pas. Donc, à côté de mon beau lustre en cristal de baccarat, je mets quand même un beau lustre aussi en cristal de Saint-Louis. Voilà, comme ça, tout le monde est content, hein. Le Lorrain et l'Alsace, voilà, ça fait pas toujours bon ménage, mais ce matin, c'est la trêve des conviseurs, on met tout ensemble. Une belle pièce. Vous ajoutez quoi dans cette belle pièce encore? Dites-moi voir. Comment? Une télévision? Non, je crois pas que là, des miroirs, hein, bien sculpté. Alors, vous mettez des billes, comment? De la lumière. Ah, non, mais non, pas encore. Ça va venir. Mais voilà, on met tout ce qu'on veut, de l'or, des bijoux, enfin voilà. Le seul problème de cette pièce, c'est justement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de lumière. Et alors, vous êtes là, puis on vous dit, mais regardez, contemplez, etc. Ben, je dis, oui, mais je vois rien. Qu'est-ce qu'il faut? Corinne nous l'a dit, il faut de la lumière. Et là, on va allumer la pièce, et on va découvrir ses richesses. La lumière de Jésus éclaire la pièce de nos vies, et on contemple les richesses de Dieu. On contemple les richesses de Dieu. Son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer, tout est dans cette pièce. Et ce matin, elle est éclairée par la lumière de Jésus. C'est quand même extraordinaire. Amen. Que ce matin, bien Jésus, nous fasse ainsi la grâce d'allumer nos cœurs, d'allumer nos vies, d'illuminer nos cœurs et nos vies. Alors, pour conclure, je dirais simplement ceci, c'est que lorsque Jésus proclame qu'il est la lumière du monde, alors il le fait à Jérusalem. Il le fait à Jérusalem. Et vous savez qu'à Jérusalem, à cette époque, eh bien, le temple existe encore. Ça, vous le savez. Et le soir, donc, tous les soirs, dans le lieu saint du temple, eh bien, on va allumer ce qu'on appelle, est-ce que vous connaissez comment ça s'appelle, ça symbolise ? La menorah. La menorah, ça a une racine hébraïque. J'ai lu dans le dictionnaire, qui veut dire lumière. Et donc, tous les soirs, le prêtre vient, alors ce sont des lampes à huile, ce ne sont pas des bougies, hein, et puis, mais tous les soirs, donc, il y a un ordre aussi à respecter, hein, mais ça, je ne l'ai pas fait particulièrement ce matin. En tout cas, tous les soirs, eh bien, on allume cette menorah, qu'on va éteindre le matin, et ainsi pendant toute l'éveil de la nuit, bien, dans le temps que cette menorah va être allumée. Cette menorah va être allumée. Et c'est le symbole, bien sûr, de la lumière. C'est le symbole de la Shekhinah, hein, c'est le symbole de Dieu qui éclaire nos cœurs, etc. Et
Jésus a dit cette parole, je suis la lumière du monde. Il le dit à Jérusalem, il le dit dans le temple. Pourquoi dit-il ça? Parce que vous le savez que quelques années plus tard, sous Titus en 70, eh bien, le temple va être détruit. Le temple va être détruit, Jérusalem va subir quelque chose de terrible, et on ne sait pas ce qui est venu, cette ménorah. Alors certains pensent qu'elle a été cachée avant que les Romains viennent, d'autres disent, bah oui, non, on voit cette ménorah sur des fresques romaines, les Romains l'ont ramenée, etc. Alors est-ce que c'était déjà une info, une intox à l'époque? On ne sait pas du tout. Hein, la communication existait déjà. Quoi qu'il en soit, bien, aujourd'hui le temps n'existe plus, la ménorah n'existe plus. Mais, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors, ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est pas d'ailleurs en ville, désolé, à votre avis. C'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai pu dessiner, ma soeur? Il faut plus dessiner que de l'écrire. À votre avis, Marie-Jo.
Jésus.
Ben, tu le sais donc. Comment? Jésus. Comment on dit Jésus en hébreu?
Yeshua.
Voilà, c'est Yeshua. Ah, donc, là, on a. Alors, et Yeshua, Jésus en hébreu, finalement, eh bien, il dira « Je suis la lumière du monde ». Et quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », on s'aperçoit que la partie supérieure de son nom, eh bien, on retrouve les sept branches du chandelier qui éclairent. Et Jésus, ce matin, demeure la lumière du monde. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et chaque petite bougie, hein, symbolisée ce matin par cette flamme, eh bien, peut nous représenter. Nous sommes devenus des petites lumières, des petites ménorahs. Et en disant ça, on se rappelle, hein, que le salut vient des Juifs, et que ce matin, nous voulons bénir le Seigneur, parce qu'il nous dit, à chacun d'entre nous, que nous sommes devenus bien la lumière de ce monde. Et si dans nos cœurs ce matin, il y a encore quelques ténèbres, il y a encore quelques vies qui sont abîmées, il y a encore quelques vies qui sont à consoler, eh bien, rappelons-nous que Jésus, ce matin, est non seulement la lumière du monde, mais qu'il éclaire nos cœurs parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui, tu peux prendre en photo. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et en chacun d'entre nous, c'est une image. Eh bien, il y a cette ménorah qui brûle parce que c'est Jésus, Yeshua, hein, le Sauveur, et on veut vraiment bénir le Seigneur ce matin, et peut-être qu'on pourrait prendre quelques instants autour de la Sainte Seine, hein, pour que nous puissions réaliser là, comme disait Yves, la grâce que nous avons ce matin de pouvoir être au bénéfice de la lumière de Jésus. Amen. Alors nous qui sommes baptisés, on va pouvoir ensemble, eh bien, prendre ce temps devant le Seigneur, et puis spontanément, hein, peut-être, voilà, trois bien-aimés, frères, sœurs, voilà, si vous voulez ce matin bien nous servir cette Sainte Seine, et puis en nous rappelant que Christ est notre lumière, eh bien on va le faire, hein, ensemble. Voilà, s'il y a d'autres bien-aimés qui veulent venir ce matin pour, voilà, encore une, et puis on pourra se lever, nous qui sommes baptisés, qui un jour avons accepté la lumière de Christ, eh bien que cette lumière, hein, continue à éclairer nos cœurs. Voilà, encore quelqu'un? Ah, c'est pour la photo là, oui. Voilà, y a-t-il encore quelqu'un d'autre? On peut se lever, et puis je sais qu'ensuite on pourra chanter un chant tout à l'heure, mais si on pourrait rechanter ce chant peut-être, Yves Emmanuel. Il s'appelle Dieu est avec nous ce matin. Alors, vous avez bien compris, c'est un symbolisme, hein, mais c'est une belle réalité intérieure dans nos cœurs. Amen. Emmanuel. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui veut... Voilà, viens Jean-Jacques.
Aujourd'hui, c'est quand même un moment spécial pour prendre le repas du Seigneur, parce que ça m'a vraiment interpellé ces derniers jours. Si Noël, on peut pas dissocier Noël de ce repas du Seigneur, parce que si Dieu s'était pas fait homme, si Jésus n'était pas venu sur cette terre, il n'y aurait pas eu de crucifixion, il n'y aurait pas de résurrection, on serait pas là ce matin, effectivement. Et aujourd'hui, c'est donc la fin de cette période de l'Avent, Adventus, la venue. Dans 1 Corinthiens 11, quand il prend le Seigneur, il dit « Faites ceci en mémoire de moi », effectivement. Et Noël, c'est aussi une fête de mémoire. Mais pour nous aujourd'hui, la mémoire, c'est beau de se souvenir, effectivement. Mais pour nous aujourd'hui, le message, c'est la venue. C'est, on l'a entendu aussi ce matin au travers des chants, des interventions, des prières. On l'entend. Et ce matin, vraiment, j'ai une grande émotion et en même temps une grande joie avec vous tous ensemble et en pensant que par le monde, nos frères et sœurs, et j'espère même peut-être au fond des camps nord-coréens ce matin, portes ouvertes, c'est Corée du Nord spécialement, alors qu'on a aussi une pensée là. On sait que c'est possible, Dieu, c'est, quand on entend, c'est miraculeux effectivement ce qu'on entend dans ce monde. Et de faire partie de ce corps de Christ, c'est, il y a tellement de mots à dire. Et en même temps aussi, oui, de dire qu'on prend ce repas-là, vous voyez, la venue, on se réjouit, le Seigneur va venir. On ne sait pas quand, bientôt, c'est sûr. Bientôt, ça veut dire quoi, bientôt? Nous, on est très limités en tant qu'humains, bientôt. Mais en fait, ce matin, je vous sais pas, quand j'ai l'histoire de Noël, l'histoire de Noël, quand on lit tous les textes qui annoncent les prophètes, et quand on lit le Nouveau Testament, les parallèles qui sont là, Akaz qui demande, Dieu lui donne un signe, la Vierge sera enceinte, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 7, Marie qui dit, mais comment cela se fera-t-il? Et le Seigneur, l'ange Gabriel lui dit, ta cousine sera enceinte. Élisabeth, c'est la naissance de Jean-Baptiste qui vient avant. Ah, c'est merveilleux. Moi, ce qui m'a marqué aussi, j'étais pas à la fête de Noël des enfants, mais j'ai redécouvert effectivement Siméon. Alors ça, c'est pour nos frères âgés qui sont là. Et pour nous aussi, c'est vraiment un encouragement. Mais Siméon, il était sensible à l'esprit, sinon il n'aurait pas pu comprendre ça. Il connaissait les textes bibliques, il vivait ça, mais il l'attendait. Et nous, c'est la même chose. On connaît les textes bibliques, on a la parole de Dieu, on attend, on a le Saint-Esprit. Ah ben, il veut nous donner des signes. À chacun d'entre nous, à l'Église, il nous donne des signes. Il veut qu'on puisse se réjouir. Il y a Anne, la prophétesse, qui n'avait pas une vie simple. Elle était très vite, très rapidement veuve. Elle était dans le temple, mais elle s'est réjouie. Ils ont compris tout de suite. Et ce matin, je crois, le Seigneur aussi, il veut qu'on se réjouisse de ce Noël. Satan, l'ennemi aimerait qu'on regarde le monde. Oui, il y a ce monde, il y a la fête et tout ça. Et nous, les chrétiens, on a souvent tendance à regarder, on n'est pas de ce monde, on ne veut pas fêter Noël comme le monde. On regarde sur ci, sur ça, comment le font. Ah, il y a des frères et sœurs qui ont un sapin, il y a des frères et sœurs qui fêtent. C'est pas le débat ce matin. Satan, il aimerait qu'on regarde sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on mange de cet arbre. Ce matin, le Seigneur nous dit, regardez sur l'arbre de la vie, mangez l'arbre de la vie. Et c'est ça aussi ce repas du Seigneur. Il y a les mages. Il y a aussi quelque chose qui m'a... Il y a 5 ans, à peu près, je me rappelle, ça m'a touché ce verset. Vous avez vu les mages quand ils arrivent? Les mages, c'était des personnes, c'était pas des rois, c'était des mages, mais des gens instruits qui étaient au service des grands de ce monde. Ils sont arrivés chez Hérode. Ils avaient l'habitude d'être chez les rois et tout ça, et ils avaient le respect des grands de ce monde. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas écouté Hérode? Alors que normalement, vu leur fonction, ils auraient dû écouter Hérode, qui est une personnalité importante. Non, parce qu'ils avaient... Ils étaient au courant des textes bibliques, pas l'histoire, mais ils étaient dans une région, même s'ils n'étaient pas juifs, ils étaient au courant de ces textes bibliques. C'est pour ça, quand il y avait l'étoile, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand ça arrivait, ils étaient dans la joie, non? Ils furent saisis d'une très grande joie quand ils ont vu l'enfant. Et ce matin, le Seigneur nous dit aussi, il veut qu'on soit saisis, et peut-être au moment de ce repas du Seigneur, le Saint-Esprit va nous saisir d'une grande joie, d'une grande émotion. Être saisi, c'est la même chose que Siméon, il était saisi, les larmes lui sont venues, c'était un homme. Je pense qu'à l'époque, je ne sais pas, je ne rentre pas dans le débat. Quand le Saint-Esprit vous saisit, les larmes peuvent venir, il y a des dons, il y a des manifestations, mais il y a aussi les larmes, Siméon. Et il peut s'en aller en paix. Et ce matin, en sortant, en prenant ce repas, on va sortir de ce culte, on aura peut-être aussi du stress, je ne sais pas, bref. Le Seigneur, et je me réjouis de savoir aussi que le Seigneur dit, vous pourrez sortir de ce culte en paix. Parce que le Seigneur, vous savez, le Seigneur, et je reviens bientôt.